Bonjour à tous. Lorsqu'un roman a 100 ans, ou presque, on peut parler d'un classique. Eh bien, c'est ce que je vous propose cette semaine. Bien qu'il semblerait que mes choix de lecture ne conviennent pas à tout le monde, je vous rappelle que je ne fais que partager avec vous les histoires qui tombent entre mes mains et qu'en aucun cas je ne propose une étude de texte ou une analyse poussée de ses écrits. Un rendez-vous pour vous donner des idées d'évasion romanesque, tout simplement, et sans autre arrière-pensée. Ceci étant dit, entrons dans la symphonie pastorale d'André Gide. Écrivain français né en 1869 et mort en 1951 à Paris. Perturbé dans son enfance par le puritanisme de son milieu, c'est une rencontre avec Oscar Wilde et un voyage initiatique avec Paul Albert Lorenz qui l'amène à rompre avec le protestantisme et à assumer son homosexualité. Critiqué pour son individualisme après la parution des Nourritures terrestres et après de nombreux échecs au théâtre, il s'affirme en tant que romancier moderne et s'impose dans les revues littéraires. Sa carrière embrasse une centaine de publications, dont La Symphonie pastorale, publiée en 1919. Un roman court qui traite du conflit possible entre la morale religieuse et les sentiments. Dans le Jura, un pasteur est appelé au chevet d'une vieille femme mourante. Après lui avoir donné les derniers sacrements et arrangé les modalités des funérailles, il découvre dans un coin de la pièce, recroquevillée sur elle-même, une jeune fille qui s'avère être la nièce de la défunte, orpheline et aveugle. Sans réfléchir aux conséquences, le pasteur n'écoute que son cœur et son dévouement religieux et l'emmène chez lui. Cette décision ne plaît pas du tout à sa femme qui ajoute encore à ses charges quotidiennes, ni au plus grand de ses 5 enfants. Pourtant, Gertrude est accueillie, laver, débarrasser des poux qui l'accompagnent et peu à peu apprivoiser en vue d'être éduqué. Sur les conseils du docteur Martin, proche du pasteur, les leçons sont prodiguées. Gertrude, qui n'émettait jusque-là aucun mot, commence à s'exprimer, échanger et découvre la lecture en braille. Évidemment, la Bible, enfin seulement quelques passages bien choisis, devient sa lecture principale. La curiosité sans limite de Gertrude enthousiasme le pasteur, qui lui décrit le monde sous son plus beau profil. À quoi servirait de lui dépeindre la réalité des hommes, puisqu'elle ne peut le constater par elle-même? Il se souvient des paroles du Christ. « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. » Alors, quel intérêt de les lui inculquer? Ses progrès et son appétit d'apprendre sont tels que la musique est rapidement ajoutée à ses leçons. Et le pasteur découvre que c'est auprès de son fils aîné, Jacques, qu'elle fait les plus grands pas. Jacques qui dévoile à son père les sentiments qu'il a pour Gertrude. Mais comment accepter que son propre fils aime plus que lui cette pauvre âme pour qui il déroule des sentiments chaque jour plus grands, dans le plus strict secret de son cœur? Il me tardait de me trouver seule avec Jacques. J'attendais ce moment. Mais devant que de lui parler, je me sentis le cœur si gonflé et par des sentiments si troublés que je ne savais ou n'osais aborder le sujet qui me tourmentait. Et ce fut lui qui brusquement rompit le silence en m'annonçant sa résolution de passer toutes les vacances auprès de nous. Or, quelques jours auparavant, il nous avait fait part d'un projet de voyage dans les Hautes-Alpes. Aussi m'apparut-il nettement que ce revirement subi n'était point sans rapport avec la scène que je venais de surprendre. Une grande indignation me souleva d'abord, mais du ton le plus naturel que je pus. « Tu as trouvé ici de quoi t'occuper ?» Il me regarda, percevant dans le ton de ma voix quelque ironie. « Vous savez que j'ai toujours préféré le livre à l'alpenstock. » « Oui, mon ami, mais ne crois-tu pas que les leçons d'accompagnement à l'harmonium présentent pour toi encore plus d'attrait que la lecture ?» Sans doute il se sentit rougir. Mais il se ressaisit presque aussitôt, et d'une voix que j'aurais souhaité moins assurée. « Ne m'accusez pas trop, mon père, mon intention n'était pas de vous rien cacher, et vous devancez de bien peu l'aveu que je m'apprêtais à vous faire. » Il parlait posément, comme on lit un livre. L'extraordinaire possession de soi dont il faisait preuve achevait de m'exaspérer. « Plutôt que de te voir porter le trouble dans l'âme pure de Gertrude, m'écriai-je impétueusement, « Ah, je préférerais ne plus te revoir. Je n'ai pas besoin de tes aveux. Abuser de l'infirmité, de l'innocence, de la candeur, c'est une abominable lâcheté dont je ne t'aurais jamais cru capable. Et de m'en parler avec ce détestable sang-froid. Écoute-moi bien, j'ai charge de Gertrude et je ne supporterai pas un jour de plus que tu lui parles, que tu la touches, que tu la vois. Mais mon père, reprit-il sur le même ton tranquille et qui me mettait hors de moi. « Croyez bien que je respecte Gertrude autant que vous. » À ces mots, Jacques est sommé de partir assumer la randonnée qu'il avait prévue au préalable. Gertrude est donc confiée aux seuls soins et aux seules attentions du pasteur, ce qui nourrit encore plus leur rapprochement réciproque, jusqu'à ce que, la nuit dernière, j'ai relu tout ce que j'avais écrit ici. Aujourd'hui que j'ose appeler par son nom le sentiment si longtemps inavoué de mon cœur, je m'explique à peine comment j'ai pu jusqu'à présent m'y méprendre, comment certaines paroles d'Amélie ont pu me paraître mystérieuses, comment, après les naïves déclarations de Gertrude, j'ai pu douter encore si je l'aimais. C'est que, tout à la fois, je ne consentais point alors à reconnaître d'amour permis en dehors du mariage et que, dans le sentiment qui me penchait si passionnément vers Gertrude, je ne consentais pas à reconnaître quoi que ce soit de défendu. La naïveté de ses aveux, leur franchise même, me rassurait. Je me disais « c'est une enfant, un véritable amour n'irait pas sans confusion ni rougeur » et de mon côté, je me persuadais que je l'aimais comme on aime un enfant infirme. Oui, vraiment, je me sentais l'âme si légère et si joyeuse que je me méprenais encore et encore en transcrivant ces propos. Et parce que j'eusse cru répréhensible l'amour et que j'estimais que tout ce qui est répréhensible courbe l'âme, ne me sentant point l'âme chargée, je ne croyais pas à l'amour. À vrai dire, ce n'est qu'en relisant cette nuit-là que j'ai compris. Sitôt après le départ de Jacques, notre vie avait repris son cours très calme. Gertrude, ainsi qu'il était convenu, avait été logée chez Mademoiselle Louise, où j'allais la voir chaque jour. Mais par peur de l'amour encore, j'affectais de ne plus parler avec elle, de rien qui nous pût émouvoir. Je ne lui parlais plus qu'en pasteur. Puis un jour, le docteur Martin annonce que la cécité de Gertrude peut être opérée. Un dilemme se pose alors. Faut-il la préserver de la mocheté du monde ou lui permettre d'accéder aux nombreuses beautés que ce dernier offre à la vue? Le choix est fait et l'opération a lieu avec succès. Mais au retour tant attendu de Gertrude, c'est un tout autre dénouement qui s'effectue. Gertrude tente de mettre fin à ses jours. La tristesse qu'elle a vue en arrivant et dont elle est responsable lui est insupportable. Quant au pasteur, il s'aperçoit qu'il était devenu aveugle.